Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif signé 7ème Dimension. J'imagine qu'on vous avait un peu manqué pendant cette période estivale, pendant cette petite rupture de quelques semaines sur le mois d'août. Donc on est sur le 9ème épisode de La Vérif et pour faire, on a vu les choses en grand, on a mis les petits plats dans les grands. Qui dit 9ème épisode de La Vérif dit 9ème film de Quentin Tarantino, si c'est pas fantastique tout ça. Donc ça sera une vérif, je pense, un petit peu plus conséquente. Alors là je suis en train de prendre la température dès le départ, mais il me semble que ça sera plus conséquent parce que c'est aussi une excuse pour parler du plus pop des réalisateurs américains, c'est-à-dire monsieur Quentin Tarantino. Donc on va essayer de scinder en fait cet épisode de La Vérif en deux parties. On va dire une petite partie plus rétrospective sur la carrière et ce que représente Quentin Tarantino, et après on va se lancer du coup dans notre vérif de Once Upon a Time in Hollywood. Donc du coup, Quentin Tarantino, on peut pas passer à côté. Voilà, c'est un des réalisateurs les plus omniprésent dans la culture populaire cinéphilique française. C'est bien, je suis très content de la tournure de cette phrase. Et c'est vrai que l'année dernière, il nous a fait une offrande nostalgique avec Once Upon a Time in Hollywood. Alors, Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui a quand même une place dans notre cinéphilie à 7ème dimension, parce que il est apparu au moment même où nous étions en train de bouffer de la péloche tout azimut, que ça soit en VHS, que ça soit en DVD. Donc c'est un réalisateur qui a émergé au début des années 90. Et ce qu'il faut comprendre dans les années 90, c'est que à 7ème dimension, nous, bah, en fait, ce qu'on se cognait les trois quarts du temps, c'était du Carpenter. C'était aussi l'arrivée, j'essaye de remettre un petit peu en perspective, de Peter Jackson. Donc c'est-à-dire qu'on se passait en boucle à l'âge de 12-13 ans du Brain Dead et du Bad Taste en VHS piraté. Et bah, Quentin Tarantino, il débarque cette même année-là, 92, avec un film qui s'appelle Reservoir Dogs. Et avec Reservoir Dogs, c'est l'émergence d'un réalisateur. Voilà. Donc ce réalisateur-là, il est immédiatement identifiable parce qu'il amène quelque chose de nouveau qui n'existait pas en fait à l'époque avec d'autres réalisateurs. C'est-à-dire qu'il amène un côté référentiel affiché via les dialogues de ses personnages à l'intérieur du film. Voilà. Donc du coup, c'était ce qu'on appelait nous, avec Peterson à l'époque, les théories. C'est-à-dire que vous aviez des personnages qui amenaient des théories sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur la culture pop américaine. Donc Reservoir Dogs, si on prend la scène d'introduction de ce film là qui se déroule en fait dans un café, nous avons des théories sur le Like a Virgin, la chanson phare de Madonna. Nous avons aussi pas mal de théories aussi sur La Grande Évasion, qui est un film phare aussi de la culture américaine. Donc on a ces personnages là qui sont des gangsters et qui parlent de façon cool, voilà, qui pourrait parler comme des cinéphiles le font entre eux, mais à l'intérieur d'un film. Donc ça, c'était la grosse nouveauté du cinéma de Tarantino dès son premier film avec Reservoir Dogs. L'autre point important aussi avec Tarantino, c'est que dans ses films, il y a toujours une ou deux scènes d'une certaine violence qui est mise en scène, enfin la violence est mise en scène d'une certaine manière qui fait que c'est pas attendu en fait, voilà. Donc quand on pense à ce premier film, Reservoir Dogs, on pense à la scène où Michael Madsen est en train de danser autour du coup du policier qui est pris en otage sur une musique du coup qui est complètement détournée par rapport à son usage et de ce qu'elle signifie. Je parle par là du morceau Stuck in the Middle with You. Et à ce moment-là, on a l'acteur Michael Madsen qui va découper l'oreille, en fait, de cet otage-là. Alors, c'est pas montré, mais en fait, la caméra va légèrement se décaler et ça se passe hors champ avec le cri du personnage. Et ensuite, on voit le résultat avec Michael Madsen qui est en train de lui parler à travers son oreille qui tient dans la main. Donc, on est, en fait, dans une manière de filmer la violence qu'on n'avait jamais vue auparavant. C'est-à-dire que ce type de violence appartenait généralement au film de genre, mais plus au film horrifique, et c'était montré frontalement, parce qu'on était vraiment on va dire, les effets spéciaux visuels, et une volonté aussi grand-guignolesque d'afficher ça à l'écran face caméra. Donc là, on a vraiment une réflexion et sur la violence, et une nouvelle manière de la montrer. Donc c'est ce qui va marquer les esprits dès le départ avec ce premier opus qui est Reservoir Dogs. Donc autant vous le dire, les cinéphiles de l'époque, enfin en tout cas pour nous, c'était la découverte d'un cinéaste, et ouais, c'était cool, et ça, j'en parlerai aussi un petit peu plus tard au travers de sa filmographie et en fait de l'hégémonie qu'a Tarantino aujourd'hui au niveau global. On avait l'impression aussi que Tarantino, c'était une découverte de notre part, si vous voyez ce que je veux dire, ça n'appartenait qu'à nous, voilà. Donc ça, c'est ce qui posera problème sur les films suivants. Donc du coup, découverte d'un nouveau réalisateur référentiel. Alors, je me permets une petite parenthèse aussi sur le côté référentiel. Il y a déjà eu d'autres réalisateurs référentiels. Si on prend par exemple le cas de Joe Dante, Joe Dante, lui, va faire de la référence sur de la culture pop américaine et notamment cinématographique au travers, on va dire, du décor de ses films, de certains posters, de certains objets qu'on peut retrouver en fait dans certaines de ses scènes, mais il ne les cite pas directement dans ses dialogues. Voilà, ça c'est la grosse différence avec Quentin Tarantino. Et on verra que Tarantino évolue dans ce référentiel qui deviendra sa marque de fabrique. Donc, émergence immédiate d'un réalisateur. Reservoir Dogs, il y a très peu de réalisateurs qui peuvent se targuer dès leur premier film de réaliser un film culte. Voilà. Donc, du coup, Reservoir Dogs, ça s'installe. On est en 92 et l'année est genre un ou deux ans après. Il impose du coup son statut de réalisateur culte dès son deuxième film qui sera Pulp Fiction. Entre-temps, c'est la vague tarantinesque qui débarque, c'est-à-dire que c'est un réalisateur mais c'est aussi un scénariste, et certains de ses scénarios sont adaptés par d'autres réalisateurs avec succès. Donc on a vraiment une nouvelle tendance qui émerge, on va dire ultra référentiel. Si on prend par exemple True Romance, qui était son premier scénario qu'il devait réaliser à la base, hein, ça je remets un petit peu les pendules à l'heure, donc True Romance devait être son premier du coup film, et il a vendu le scénar et on lui a pas fait confiance pour lui confier la réalisation à l'époque. C'est pour ça que Reservoir Dogs est un huis clos et qu'il est dans l'économie de moyens avec Reservoir Dogs, hein, c'est vraiment pour ça. Donc True Romance est vendu et du coup réalisé par Tony Scott, et on retrouve en fait hein, tout ce qui fait le cinéma de Tarantino. Et de l'autre côté, on a aussi un autre script appelé Tuerney, qui est lui vendu également et réalisé par Oliver Stone, qui... voilà, il y a vraiment à l'époque, hein, c'est ce qui était dit, et clairement c'est ce qu'on peut voir si on récupère le scénario original et qu'on regarde le résultat final. Oliver Stone a vraiment, s'est vraiment réapproprié le matériau de base et en a fait complètement autre chose. Alors que Tony Scott, lui, il a été assez respectueux, il a juste changé l'ordre en fait des scènes du film pour avoir une histoire plus linéaire dans le cas True Romance, hein, qu'on aille d'un point A vers un point B. Voilà. Alors que à l'origine, le scénario ressemblait plus à la structure qu'à Pulp Fiction, c'est-à-dire avec des scénettes déplacées au début et à la fin. Donc du coup, on a vraiment un style Tarantino qui émerge en deux ans, hein, de 92 à 94, et sera une grosse influence, parce que dites-vous qu'il y aura du sous-Tarantino. Imaginez cette période-là, 92, on va dire le début des années 90 jusqu'au milieu des années 90, c'est un petit peu ce qui se passe quand, par exemple, George Romero fait un film de zombies et qu'il y a toute la vague de films de zombies italiens, ou que George Miller fait son Mad Max et qu'on a tous les sous-Mad Max et tout le post-apo qui arrive d'Italie. Donc là, on a du sous-Tarantino en veux-tu en voilà. Le premier exemple qui me vient en tête, désolé, peut-être que je vais pas me faire des amis, mais Guy Ritchie, c'est par exemple du sous-Tarantino. Voilà, on peut le voir même avec son dernier opus qui a débarqué en salle l'année dernière. On est dans du sous-Tarantino où on sent que voilà, la formule est adaptée au Royaume-Uni. Voilà, c'est une formule, c'est du Tarantino britannique, mais sous-Tarantino. Donc du coup, on revient sur l'année 94, on a la sacralisation, l'intronisation de Tarantino via le Festival de Cannes et via la Palme d'Or qu'il obtient du coup pour le film Pulp Fiction. Donc à partir de, si on peut, parce que forcément, parce que l'idée, c'est pas d'être dans la redite au niveau de Tarantino, parce que déjà, tout a déjà été dit, c'est vraiment d'amener une lecture un petit peu différente qui sera celle de 7ème dimension par rapport à Tarantino. Donc, 94, c'est la bombe Pulp Fiction qui arrive. Ce qu'on peut retenir de Pulp Fiction, bah déjà, c'est cette volonté de Tarantino d'aller pêcher des acteurs qui sont en perte de vitesse ou qui représentent quelque chose, en fait, pour lui, hein, dans sa cinéphilie. Donc, c'est redonner une chance à Bruce Willis, à John Travolta, qui était en perte de vitesse à l'époque. Pulp Fiction, c'est aussi une soundtrack. Voilà. Avec Tarantino, vient aussi, c'est remis au goût du jour, la bande originale de film. Voilà. Et alors, attention, bande originale de film, pas liée au compositeur de la musique, mais plutôt à la playlist que Tarantino fabrique pour chacun de ses films. On peut rapprocher le travail de Tarantino, parce que c'est pas nouveau, hein, ça existait avant, c'est ce que faisait déjà Michael Mann, en fait, sur ses films. C'est-à-dire que Michael Mann se crée une playlist, en fait, de groupe, j'en ai déjà parlé, hein, dans notre vérif sur Manhunter. Il se crée une playlist pour écrire, et il va réutiliser cette playlist lors de la conception et du montage du film. Donc Tarantino, c'est un petit peu pareil, sauf que lui, il va piocher vraiment en long, en large et en travers, en fait, dans sa culture musicale. Et avec Pulp Fiction, oui, je m'en rappelle à l'époque, c'est du coup, grâce à lui, on rachète de la bande originale de film. Et ça fait rire aussi parce que cette intronisation, cette sacralisation à Cannes fait que Tarantino, le turbulent, entre guillemets, réalisateur, voilà, le chien fou, est récupéré aussi par cette intelligentsia liée, du coup, à Cannes et liée à toute une frange, en fait, de la cinéphilie un peu cul serré, bobo, et c'est récupéré, en fait, par ces gens-là. Et donc, ça faisait rire, déjà, à l'époque, de voir ces gens-là écouter ces titres-là de la BO de Tarantino et se la raconter en parlant de Tarantino, du coup, aux réceptions de l'ambassadeur, entre guillemets, pour vous voyez, avec la pub Ferrero, en fait, c'était à peu près ça. Donc, dès 94, dès cette Palme d'Or, en fait, et on est en train d'avoir une scission entre la fanbase de Tarantino, donc les vrais de vrais, qui ont découvert ça sans les moyens d'un festival, mais en dur, avec de la VHS, etc. Donc, il y a une scission entre cette fanbase-là et cette nouvelle fanbase qui est très contente d'avoir un nouveau réalisateur un peu turbulent. On va dire qu'entre guillemets, c'est le nouveau chic bourgeois de regarder du Tarantino. C'est un peu foufou, il y a des trucs un peu dingues. Et si on prend l'exemple de Pulp Fiction, ouais, il y a quand même la crampe et la scène de la cave, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Pulp Fiction, ce qu'il faut recentrer aussi, c'est que ça sera aussi une scission avec son pote et scénariste d'alors, voilà, qui est Roger Avary. Voilà. Donc, on remet une couche là-dessus. Tarantino, bien entendu, il a il est pas diplômé de grandes écoles de cinéma. Il a fait sa culture, voilà, tout le monde le sait, à force de bouffer de la péloche en tenant le Video Archives de Los Angeles avec son pote Roger Avary, et il écrivait du scénar. Voilà, il écrivait du scénar, et ce sont eux deux qui ont posé les bases en fait de Pulp Fiction. Et il y a eu une scission à l'époque parce que Tarantino s'est approprié dans de nombreuses interviews et a essayé de réécrire l'histoire, et s'est approprié pas mal de choses qui avaient été faites par Roger Avary. Et c'est vraiment à partir de Pulp Fiction que les deux hommes se brouillent et ils ne recollaboreront plus par la suite ensemble. Donc Pulp Fiction, gros coup marketing. Film culte instantané pour tout ce que ça représente et pour tout ce qui a amené. C'est aussi propulsé Samuel Jackson sur la stratosphère cinématographique. On découvre des acteurs, voilà, c'est ça aussi qui est important. On en a d'autres dans des seconds rôles marquants. Et à partir, on va dire, de suite à Pulp Fiction, de 94 jusqu'à 97, jusqu'à Jackie Brown, c'est aussi une période que je trouve très cool, qui est le rapprochement avec, on va dire, le pendant mexicain tarantinesque, qui est Robert Rodriguez. Et c'est aussi l'émergence d'une collaboration qui se fait au travers d'un film matriciel, qui est From Dusk Till Dawn, qui est Une nuit en enfer. Voilà, ce qu'il faut comprendre avec Une nuit en enfer, moi je vais vous remettre la séance ciné que j'avais vue à l'époque, c'est que je vous ai dit que Tarantino commence à se constituer deux fanbases en fait. C'est-à-dire la fanbase d'origine, les vrais de vrais, hein, les fans de films de genre, et les autres. Voilà, donc tous ces bobos cul serrés qui disent « Tarantino, c'est très cool ». Et tous ces gens-là se retrouvent dans la même salle pour aller voir Une nuit en enfer. Parce que en 96, Internet n'est pas là. Et Une nuit en enfer, c'est un mélange, en fait, de quoi ? D'un film gore à la Fulci, avec une histoire, du coup, de gangster à la Tarantino. Voilà, il y a vraiment une scission dans le film. Et à l'époque, en 96, il n'y a pas Internet. Donc, du coup, la surprise est quasiment totale. Ceux qui ne lisent pas, par exemple, Mad Movies ou L'écran fantastique à l'époque, ne savent pas de quoi ça parle, Une nuit en enfer. L'affiche, on y voit juste George Clooney, Quentin Tarantino, parce que c'est aussi Quentin Tarantino l'acteur, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Quentin Tarantino voulait être acteur, donc c'est pour ça aussi qu'il fait des petits rôles dans ses films, et qu'il joue dans les films des autres. Donc, Une nuit en enfer, ça reste une des meilleures séances ciné de ma vie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que au moment où George Clooney et Quentin Tarantino sont dans le Titty Twister et qu'on y ferme la porte et qu'on voit à coup de morphing signé KNB, voilà, ce vampire qui dit « Le dîner est servi ». Voilà. Là, on bascule dans l'hommage à Fulci, mais imaginez la tête des bobos dans la salle. Il y en a qui sont partis. Voilà. Et c'était génial. C'était genre « Oulala, mais qu'est-ce qui se passe, on nous a menti, chérie, prends ta veste, on s'en va ». Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça, et c'est pour ça que j'aime ce Tarantino-là, voilà. Même si c'est signé Robert Rodriguez, il y a vraiment le mélange, la fusion des deux, et c'est pour ça que j'aime Tarantino, et c'est pour ça, on y reviendra, que j'aime Once Upon a Time in Hollywood, notamment le final, parce qu'on retrouve le Tarantino sale gosse, le Tarantino qu'on aime, et pas leur Tarantino à la con, où on se gosse et on glousse sur des références coolos à distribuer dans les soirées bon chic bon genre. Donc voilà, donc Une nuit en enfer, c'est 96, c'est une date, autant vous le dire, c'est peut-être la VHS que j'ai vu le plus de fois, je crois que je dois être à une cinquantaine de fois, et Evil Dead 2, voilà. Donc c'est vraiment le film qui a le plus tourné, donc film culte aussi instantané. Alors il est pas parfait, mais il est tellement généreux, et il est tellement incroyable, et il est tellement unique dans son genre, que oui, film culte instantané. Et on arrive à l'année 97, et là patatras, là... Vraiment, y a vraiment, pour moi, avec Jackie Brown, une incompréhension du public. Je pense que ce film-là, Jackie Brown est arrivé peut-être trop tôt dans sa filmographie. Il aurait peut-être dû arriver un peu plus tard. On est non pas sur un scénario original de Quentin Tarantino, mais sur une adaptation dialoguée d'un roman d'Elmore Leonard, qui est un écrivain américain très connu et spécialisé dans le film de gangster, et que Tarantino, voilà, Tarantino y rend hommage, voilà. C'est Elmore Leonard, c'est une influence majeure, comme Shane Black est aussi une influence majeure pour son cinéma. Donc il décide d'adapter ce roman-là qui s'appelle Punch Creole, qui met en scène des acteurs quinquagénaires avec des préoccupations de quinca. Et on est sur une histoire linéaire, on n'a plus une structure morcelée à la Pulp Fiction, et on est moins dans ces morceaux de violence qu'on pouvait avoir dans Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Une nuit en enfer. On est sur une sorte de film de la maturité qui arrive un peu trop tôt, et j'ai envie de vous dire, 97, moi j'ai 17 piges, j'ai trouvé ça long, laborieux. Alors c'est bien exécuté, mais ces préoccupations de quinca, ça m'intéressait pas en fait. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça reste, je crois que je l'ai dû le voir, deux fois dans ma vie. La deuxième fois, c'était vraiment pour me forcer pour le revoir. Ça mériterait une vérif aujourd'hui du haut de mes 40 printemps pour voir si ça me parle un peu plus. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu le même effet que le Way of the Gun de Christopher McQuarrie. C'est-à-dire, c'est un western avec des vieux. Celui-là, voilà, ça met en scène des quinquas et ça me parle pas. Ça me fait pas rêver, ça me transporte pas, ça m'intéresse pas forcément. L'autre point intéressant dans Jackie Brown qui peut aussi soulever des interrogations, c'est que il va aller, parce que dites-vous bien qu'à la sortie de Pulp Fiction, tous les acteurs un peu en perte de vitesse veulent mettre Quentin Tarantino sur leur CV. C'est aussi le dernier réalisateur à la mode. Donc sur Jackie Brown, vous avez du coup une liste d'acteurs dans des dixièmes rôles qui sont des acteurs de premier plan, mais qui ont des rôles qui sont pas mémorables. Je pense notamment à Robert De Niro dans Jackie Brown, ça sert à rien, quoi. Voilà. On a du coup Michael Keaton qui arrive à sortir son épingle du jeu à cette époque-là, avec le rôle d'un policier du FBI, qui fera le lien dans une espèce de Elmore Leonard Universe, parce qu'à la même époque, Steven Soderbergh adapte un autre roman d'Elmore Leonard qui est Hors d'atteinte, avec George Clooney du coup dans le rôle principal, et on retrouve le même personnage incarné par Michael Keaton. Ça parle à peu près, il fait le lien entre les deux films, et c'est vrai qu'à l'époque, ouais, immédiatement j'ai trouvé Hors d'atteinte immédiatement plus cool et qui me parlait un peu plus que le Jackie Brown de Tarantino. Donc voilà, pour moi Jackie Brown c'est un petit peu un film de l'incompréhension et qui arrive, un film de la maturité qui arrive un petit peu trop tôt dans sa filmographie. Et c'est aussi un moindre succès au box-office. Voilà. Ça, c'est pas un bide, c'est pas non plus un gros succès, mais on sent bien que le public suit pas forcément à l'époque. Donc en 97, c'est un petit peu la remise en question Tarantino. Du coup, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Quentin Tarantino, sa force en tant que réalisateur, on l'a dit, c'est du dialogue acéré, c'est un dialoguiste, c'est limite un romancier. Ses films, les trois quarts du temps, il y a de l'action, mais c'est hors champ. Alors, dans Reservoir Dogs, c'est hors champ pour des raisons de budget, mais c'est aussi hors champ pour des raisons de capacité cinématographique. On peut se poser la question, après Jackie Brown, de savoir si Tarantino est un réalisateur visuel. Voilà. Donc, à cette époque-là, on peut dire que c'est un excellent dialoguiste. Il sait diriger des acteurs. C'est pas non plus dingue en termes de mise en scène. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On est plus dans le théâtre filmé que vraiment... Alors, il y en a qui ont peut-être gueulé. Et d'ailleurs, je suis preneur de vos retours. Voilà, vendez-moi que Jackie Brown, c'est plus que du théâtre filmé. Mais voilà, à ce moment-là, son cinéma, c'est des trucs de petits malins, voilà, qui fonctionnent bien. Qui n'a pas essayé à l'époque, avec sa propre caméra, de faire un plan en vue subjective, ouverture du coffre de bagnole, comme on a pu le voir dans ces films-là, voilà. Donc c'est des plans de petits malins, et je pense que l'expérience, la collaboration avec Robert Rodriguez, qui lui par contre n'est pas un grand dialoguiste, mais est un réalisateur visuel, oui. Chez Rodriguez, je ferai peut-être, j'y ai pensé, une spéciale Robert Rodriguez. C'est un réalisateur visuel, qu'on le veuille ou non. Oui, le réalisateur des Spy Kids, c'est un réalisateur visuel. Donc, et du coup, il est plus acéré que Tarantino à ce niveau-là. Donc, je pense que ce Nuit en Enfer, à un moment donné, ça a dû permettre à Tarantino de se poser des questions et de voir un petit peu, en termes de matos, comment filmer le mouvement, en fait. Voilà. Et c'est là qu'arrive, en fait, du coup, le diptyque Kill Bill. Voilà. Qui est normalement un seul et même film, mais qui a été découpé en deux volumes, en deux parties, de par sa durée conséquente. Voilà. Donc, Kill Bill, le principal questionnement que l'on pouvait avoir avant de voir ce film, c'est est-ce que Quentin Tarantino sera capable de filmer l'action ? C'était son principal défi, et c'est ce qu'il dit au final, hein. Dans les making-of et dans toutes les interviews d'époque, c'était son principal défi, et on peut dire que le défi est relevé haut la main. Là, on peut répondre à cette question. Donc, ce Kill Bill volume 1, volume 2, qui est un hommage, mais à énormément de choses. On sent aussi, hein, l'influence de Rodriguez et de ce mash-up qui était Une Nuit en Enfer. C'est-à-dire que le volume 1 de Kill Bill, c'est un hommage au film de sabre japonais. C'est vraiment l'hommage au Shambara, voilà. Alors que le volume 2, c'est l'hommage au western spaghetti. Mais pourtant, c'est une seule et même histoire. Voilà. Donc, au niveau du cahier des charges, voilà, imaginez le cahier des charges, en fait, à respecter avant de tourner, c'est quand même du lourd. Voilà. C'est pour ça aussi que je m'adresse aussi à la jeune génération. Ouais, les millénials, hein, ceux qui sont nés après 2000, pour eux, Tarantino, c'est pas Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Pour eux, ça démarre à Kill Bill. C'est pour vous montrer l'impact dans la culture populaire. Et Kill Bill, c'est plus d'aspect, c'est moins rugueux que les films précédents. C'est plus coloré, même s'il y a de la violence, c'est détourné, c'est pop. On est vraiment dans un condensé de tout ce que du meilleur de Tarantino, mais sublimé du coup par ses hommages visuels du coup au Shambara et au Western Spaghetti et à plein d'autres choses. Parce que et c'est là qu'on voit aussi le côté un petit peu patchwork de Tarantino, c'est-à-dire que il va citer directement des scènes de ses réalisateurs favoris. C'est pour ça qu'on a des scènes à la De Palma. Dès le Kill Bill volume 1, si vous voyez ce que je veux dire, notamment la scène de l'hôpital avec Ellie Driver. Donc voilà, tout ce split screen et la musique associée, c'est un hommage, du coup, appuyé à Brian De Palma. Et Kill Bill, c'est aussi l'occasion de se rendre compte, c'était déjà annoncé dans Pulp Fiction, que Tarantino ne cite plus un certain cinéma, il inscrit son cinéma dans ce cinéma-là qu'il apprécie. C'est-à-dire, autant le personnage en fait de Samuel Jackson dans Pulp Fiction est capable de citer David Carradine dans la série Kung Fu, autant dans Kill Bill, on a David Carradine et on est typiquement dans le genre de la série Kung Fu. Donc, c'est vraiment à partir de Kill Bill que Tarantino investit l'époque et les codes visuels du cinéma qu'il apprécie. Et ça continuera par la suite. Donc Kill Bill volume 1, volume 2, c'est le gros carton. On arrive ensuite, après la période Kill Bill, dans une période de passage à vide. On est alors en 2007. Et ce passage à vide-là, c'est du coup le boulevard de la mort, le Death Proof. Donc ce film, Grindhouse, voilà, vendu comme un double programme associé au Planète Terreur de Robert Rodriguez. Et ce film-là, oui, c'est déjà le début d'un certain problème chez Tarantino. C'est-à-dire qu'à partir de Boulevard de la Mort, on peut dire qu'il commence à se regarder filmer. Donc, ça veut dire quoi, se regarder filmer ? Ça veut dire que il a atteint un tel statut en peu de temps. Il est au même niveau du coup qu'un George Lucas ou qu'un Peter Jackson. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de lui, hormis, ça il l'avait dit, sa monteuse de toujours, Sally Menke, hormis elle. Tous ceux qui l'entourent sont en mode oh, vas-y, fais ton truc, fais du Tarantino. Voilà. Donc il n'y a personne qui va lui dire c'est trop long, faudrait couper, faudrait passer à autre chose. Donc on va prendre quelques minutes pour parler du cas Boulevard de la Mort. Donc c'est un projet, donc c'est-à-dire que les deux compères, là, Rodriguez et Tarantino, ont kiffé travailler sur Nuit en Enfer. Et comme ce sont deux cinéphiles avertis, ils se sont dit putain, tu te rappelles cette époque des doubles programmes, hein, voilà, du double feature, voilà, des séries B où t'enchaînes un film avec un autre, etc. Et ils commencent à réfléchir en fait au style un petit peu de ces films-là, de Drive-In avec tous ces problèmes de pellicule. Voilà, voilà, tous ces problèmes de série B qu'on peut avoir, des coupes dans le montage, des coupes dans l'art où on a l'impression qu'il manque une bobine. Donc ils commencent un petit peu à délirer et ils imaginent un concept où on aurait un seul et même film d'une durée de 2 heures et chacun des deux tournerait un segment en fait. Voilà. Donc sur le papier, c'est comme ça que c'était vendu à l'époque. Nous, on avait entendu parler du projet. Voilà, t'es chaud patate en tant que cinéphile, en se disant ouais putain, les deux se réassocient quelques années après Une nuit en enfer. D'un côté, on a Tarantino qui est en train de nous dire, voilà, je vais faire un segment qui s'appelle Death Proof, où en une heure, je vais faire un hommage au slasher, mais à la place du couteau, ça sera une bagnole, et le rôle principal, c'est Kurt Russell. Putain, tu te dis, génial, génial. Et de l'autre côté, t'as Robert Rodriguez qui te dit, voilà, moi, je vais faire un film de zomblard, ça s'appelle Planète Terreur, et dedans, déjà, t'as des premiers visuels où tu vois Rose McGowan avec une jambe mitraillette. Tu te dis, c'est génial. Moi, j'ai eu la même impression quand j'ai vu cette affiche-là, quand j'ai vu ce concept-là, j'ai eu la même joie que quand j'ai vu l'affiche d'American Warrior 2 dans mon vidéoclub. C'est-à-dire, tu te dis, tu vois ça, tu meurs après derrière, c'est bon, t'es content. Voilà, c'est le film de ta vie. Et au final, il y a déjà une mésentente à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'autant Rodriguez, il va respecter le concept jusqu'au bout, et ça, on peut pas lui enlever. Voilà. Pourtant, Dieu sait que Spy Kids 3 et Sharkboy et Lava Girl, ça a tendance à me faire revoir à la baisse les capacités de ce réalisateur-là. Mais autant on peut pas lui enlever la générosité, et il respecte le concept, lui, avec Planète Terreur, dans le style visuel, dans le fait où il manque une bobine, dans la générosité et dans cette volonté de rendre hommage au genre. Autant le compère Tarantino, je pense qu'à cette époque-là, la tête, elle passe plus les portes en fait. Et donc du coup, lui commence à son segment de 1 heure, il commence à se dire que ça peut être un film indépendant, il commence déjà à vendre le film à part et à le gonfler en fait. Voilà. Et c'est vrai que Boulevard de la Mort, alors oui, hein, je vais la voir, parce que quand on est cinéphile, On a aussi besoin de posséder, et même des fois des films qui sont pas défendables. Boulevard de la Mort, je crois que ça doit être son film le plus faible. Voilà. Parce que l'histoire, elle peut pas s'étirer sur quasiment 2 heures, et on passe son temps à regarder Tarantino se regarder filmer, et c'est long et chiant, ça on va le dire. Et pourtant Kurt Russell il s'en tire bien. Donc Boulevard de la Mort, pour moi c'est le prototype du film prétentieux. Voilà, donc déjà, à cette époque-là, je commence à avoir un problème avec Tarantino. Bien entendu, si on prend l'autre côté de la fanbase, c'est-à-dire tous ces cinéphiles de soirée Q-série, ils sont là en train de dire « Oh mon Dieu, Boulevard de la Mort, c'est génial !» Alors que tous ces connards, ils ont jamais regardé un seul slasher de leur vie. Donc voilà, moi Tarantino, il me vend un slasher avec une bagnole. Je crois qu'il doit y avoir deux scènes de slasher à l'intérieur. Le reste, c'est de la branlette visuelle. Voilà, ça c'est mon avis sur Boulevard de la Mort. Voilà. Alors que de l'autre côté, Planète Terreur, même s'il a été, ben oui, forcément, par la force des choses, gonflé, lui aussi, parce qu'il a dû sortir indépendamment, mais c'est 100 fois meilleur que Death Proof. Voilà. Planète Terreur, ça l'enfonce complètement. D'ailleurs, Planète Terreur, je crois que ça va être mon prochain film de la vérif là. Tellement je suis content d'en parler. Donc voilà. Donc ce concept de Greenhouse, les deux films sont sortis en mode gonflé à part, et il y a qu'aux États-Unis qui est sorti en fait les versions courtes et assemblées en 2 heures de ces deux films. Donc du coup, votre interlocuteur à l'heure actuelle n'a jamais vu cette version tronquée et assemblée des deux films, donc je ne pourrais pas en parler. Et je suis preneur aussi de vos avis pour ceux qui ont vu cette version là assemblée originelle de ce qu'ils avaient en tête pour Greenhouse. Donc déjà pour moi, à partir de Boulevard de la Mort, voilà, il commence à y avoir un problème. Problème qu'on retrouvera en 2009 avec Inglourious Basterds. Alors oui, effectivement, je vais quand même le dire, je vais être assez objectif. Oui, chaque film de Tarantino est un film somme, est une pierre, un édifice important à sa filmographie et au cinéma américain en général. Mais maintenant, on va être, parce que qui aime bien châtie bien, être un peu plus pointilleux aussi sur chacune de ses offrandes. Donc déjà pour moi en 2009, Inglourious Basterds, déjà il commence à se réapproprier ce qui sera sa marque de fabrique aujourd'hui, à se réapproprier des événements historiques et à les détourner et à s'inventer une réalité parallèle, hein, qui va être de l'ordre de l'Uchronie. Voilà. Donc là, Inglourious Basterds, c'est s'approprier en fait du coup un vrai sujet de film d'exploitation de l'époque, qui est la nazisploitation, en fait les films sur les nazis, donc la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais on est vraiment en mode nazisploitation, donc de s'approprier en fait cette partie-là et de réécrire un peu l'histoire à sa sauce à lui. Alors ça, c'est valable. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui l'ont fait. On peut penser, les seuls qui ont été capables déjà à l'époque de faire ces choses-là, c'était les Monty Python au travers de leur satire. Donc du coup, Inglourious Basterds, donc, c'est quand même une offrande tarantinesque valable, mais on a beaucoup de moments qui tournent à vide. Voilà. Ça se voit déjà dès l'introduction. Donc, c'est-à-dire que dans l'introduction, on va se concentrer sur l'introduction de ce film-là, qui se passe en France, voilà, où vous avez une volonté de Tarantino dès ce plan-là, dès cette scène-là, parce que vous pouvez isoler chaque élément. Hein. On est dans une construction à la Pulp Fiction, c'est-à-dire une scène, un décor, des personnages, après on passe à autre chose, voilà. Donc c'est du huis clos en extérieur, si vous préférez. C'est ce qu'on retrouvera aussi dans Django Unchained, hein. C'est un peu sa marque de fabrique, mais qui n'était pas forcément présent dans Kill Bill. Donc il revient vraiment à ce style-là de huis clos extérieur, si vous préférez, de théâtre filmé, mais avec un peu plus de possibilités en termes de mouvement de caméra. Donc, cette scène d'Inglourious Basterds, elle est totalement gratuite parce qu'il y a une volonté juste de rendre hommage, en fait, du coup, à Sergio Leone. Notamment avec la musique de Morricone et notamment avec ces scènes qui vont, avec peu de dialogue, qui vont installer une ambiance et un suspense comme on peut le retrouver dans Il était une fois dans l'Ouest. Moi, mon problème qu'il y a aussi, c'est que ce procédé narratif du pistolet ou fusil de Tchekhov, c'est-à-dire de placer un élément visuel qui va servir plus tard dans la narration, bah ici, ça tourne à vide. C'est-à-dire que il présente, alors on peut dire qu'il joue avec les attentes, hein, parce que on va dire que les trolleurs ou les plus mauvais d'entre vous seront capables de dire « mais non, il contredit les attentes ». Non, moi, tu mets en scène, du coup, un espèce de vieux rustre français, voilà, qui est en train de couper du bois avec une hache sur une musique de Morricone, voilà, avec une hache, et ensuite après, tu fais venir un petit nazillard adepte du dialogue sans soif, voilà, qui te parle de lait, etc. Voilà, donc vraiment un chasseur de nazis. Putain, utilise la hache. Donc il détourne son fusil de Tchekhov, mais il frustre. Pour moi, en tout cas, en tant que spectateur, en tant que fan, pour moi, ça tourne à vide. Moi, je le sens. Se regarder filmer et se dire « Eh, regardez les gars, j'ai fait ma scène à la Morricone. » Et puis après, il embraye sur son style dialoguer pour déboucher sur autre chose. C'est dommage. Voilà. Pour moi, c'est dommage. Donc, il y a beaucoup de passages dans Django... excusez-moi, du coup, lapsus révélateur. Dans Inglourious Basterds, qui, pour moi, tourne à vide. Voilà. Donc, où on se regarde filmer. Et c'est aussi à partir de ces films-là aussi que la durée du long métrage n'est plus un problème. C'est-à-dire que si on peut aller jusqu'à 3 heures, c'est pas un problème. De toute façon, comme diraient les autres, c'est du Tarantino, c'est normal, ça dure 3 heures. Bah, ta gueule, Reservoir Dogs, ça dure pas 3 heures. Et pourtant, c'est du Tarantino et c'est 100 fois plus impactant que Django, et je vais y arriver. Pourtant, j'aime bien Django Unchained, hein. Donc, que Inglourious Basterds. Donc, c'est là où je veux en venir. Voilà. Aujourd'hui, tout est Tarantino, tu comprends, la durée, etc. Non, c'est jusqu'à un moment donné, mec, faut couper. Voilà. C'est là où je me permets une petite parenthèse sur le film suivant. Dans Django, c'est quand même le principe du film qui finit jamais. Ça ne finit jamais. Tu crois que c'est fini, mais ça ne finit pas. Il y a encore une scène derrière, etc. Donc voilà, il y a des trucs à couper. Faut couper des fois, hein, sans déconner. Donc voilà, Inglourious Basterds. On prend quand même, attention, hein, ça reste du haut niveau, voilà. Guy Ritchie, même en étant sous cocaïne, avec l'aide de tous les dieux monothéistes et polythéistes, voilà, et les super-pouvoirs de tous les super-héros, il n'arriverait pas au niveau d'un Inglourious Basterds. Mais je tiens à le dire quand même, Inglourious Basterds, on a un réalisateur qui commence à se regarder filmer. Voilà, il le faisait sur Boulevard de la Mort. C'est le scénario est un peu plus élaboré sur Inglourious Basterds, mais Quentin tu te regardes filmer, mec. Hein. Voilà. On passe en 2012. Voilà, on le sait. On le sait, il n'arrête pas de le répéter. Tarantino est un fan absolu de Western Spaghetti. Voilà, c'est un fan avéré. Inglourious Basterds, certaines scènes puaient le western, donc il était évident à un moment donné, au fur et à mesure de ses multiples citations tant visuelles que dialoguées, que Tarantino allait investir le western spaghetti. Ce sera chose faite avec Django Unchained, qui pour le coup est un film aussi somme, une pierre à l'édifice, au monument Tarantino, et c'est quand même un film voilà, qui fait l'unanimité. Voilà. Même s'il y a certaines longueurs, je le trouve mieux équilibré et peut-être un poil plus original que par exemple les films précédents. On reste aussi dans une forme d'uchronie parce qu'on réécrit certains passages de l'histoire, notamment liés à l'esclavage. Voilà. Et il y a toujours cette volonté et ce côté un peu pop de rendre ça cool. Voilà. Donc son Django, il est cool et qui peut être plus cool que Jamie Foxx pour incarner son Django, hein. Donc on va aller pêcher l'acteur du Miami Vice de Michael Mann. Donc on retrouve aussi Christopher Waltz qui était présent, c'était la découverte d'Inglourious Basterds, voilà. Excellent acteur, fantastique acteur, ça on peut le dire, mec incroyable. Et ça sera aussi l'arrivée de Leonardo DiCaprio dans l'univers tarantinesque, pour un rôle de méchant qui restera aussi dans les annales. Donc Django Unchained, c'est pas le film que j'ai revu le plus souvent de Tarantino, mais à chaque fois que je l'ai revu, je découvrais des choses et je l'appréciais de plus en plus. Hormis un final que je trouve ridicule quand même. Je parle pas de la scène de fusillade, mais cette espèce de drift à cheval, je trouve ça d'un ridicule. Il y a un autre passage aussi, parce que c'est visible comme ça, c'est que je me regarde filmer et que je me regarde jouer aussi. Le passage, bonjour, je fais mon caméo, je suis Tarantino, je joue un rôle dans mon propre film. C'est inutile et c'est nul. Voilà. Donc pour moi, ça tourne à vide. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même super généreux. Donc Django Unchained, ouais, c'est quand même vachement bien. Et on arrive en 2015 sur un autre western. Et ce western-là, il est intéressant parce que, pour la petite histoire, le scénario avait fuité. Tarantino se posait la question de s'il allait tourner ou pas. Voilà, il était en mode, bah oui, parce que c'est un peu un réalisateur capricieux, genre en mode, vous connaissez l'histoire de mon film, donc du coup, je suis déçu. Voilà, je sais pas si je vais le tourner. Et rappel à l'ordre du gros Weinstein, ouais, mais t'as quand même un contrat avec nous et il y a besoin de ramener des pépettes, alors tu vas le tourner ton putain de film. Ouais, d'accord. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Je résume, j'exagère, mais les à côté sont comme ça. Donc, Les 8 salopards, c'est 2015, c'est à nouveau un western, mais du coup, c'est à la fois un remake de The Thing en mode western, oui, le film de John Carpenter, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Reservoir Dogs, le nom, ben, ça vient du The Thing de Carpenter, qui est un de ses films préférés à Tarantino. Ça fait référence au chenil, là où il y a les chiens enfermés et qu'ils se font assimiler et reproduire par la chose en titre du film de Carpenter, donc voilà d'où vient le titre Reservoir Dogs. Et ces 8 salopards-là, c'est à la fois un hommage à The Thing, il faut trouver qui est le traître à l'intérieur, donc qui est possédé par la chose, comme c'est un quasi-remake westernien de Reservoir Dogs. Donc j'ai envie de vous dire que si la carrière de Tarantino s'était arrêtée après Les 8 salopards, la boucle était bouclée. Parce qu'il y a aussi une autre connerie qui traîne, parce que Tarantino est un réalisateur bavard, c'est aussi un réalisateur qui s'épanche beaucoup en interview et qui raconte des choses bien et énormément de conneries aussi. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on entend que son nouveau film est son dernier film à chaque fois. C'est aussi le réalisateur, quand je vous dis qu'il se regarde filmer et qu'il a le kiki tout dur quand il fait ses films, c'est le seul réalisateur qui, en tête de ses films, met le 6e film, le 4e film, le 8e film de Quentin Tarantino. Enfin voilà. On est quand même... alors, pour être réalisateur, faut avoir de l'ego. Oui, on a un haut niveau quand même hein, avec Monsieur Tarantino. Ça va, l'humilité, voilà, comme je vous disais que la tête elle passait pas à travers la porte, là c'est clairement affiché. Donc voilà, donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même la réalité. Il y a un ego surdimensionné. Voilà. Donc réalisateur super bavard aussi. Donc les 8 salopards, c'est un film qui est trop long. Voilà, déjà, on est à 3 heures. Alors, on pourrait le dire hein, aussi, qualité. Depuis Django Unchained, il y a une volonté de Tarantino déjà, ça on peut le dire, parce que je ne l'avais pas dit. Il s'est amélioré en termes de prise de vue. Voilà, donc on est sur un réalisateur qui est amoureux de la pellicule, qui, tout comme Christopher Nolan, milite pour une utilisation du 70 mm, du grain pellicule, des mouvements amples de caméra, de la bobine, de la projection. On est sur un réalisateur qui milite pour ça, et on est sur un réalisateur qui s'est grandement amélioré en termes de prise de vue et d'éclairage, notamment avec son association, avec son chef-op attitré depuis Kill Bill, qui est Bob Richardson, qui va l'aider à chaque fois à composer de somptueux tableaux. On peut dire, moi je le dis que depuis Kill Bill, ces films sont somptueux, on peut pas dire le contraire. J'ai un peu de mal quand même avec le côté, alors après c'est lié avec le côté un petit peu, je trouve que la photo est un peu dépressive d'Inglourious Basterds, mais Django, Les 8 Salopards et même le tout dernier Once Upon a Time in Hollywood ou Kill Bill, c'est fastueux, voilà, c'est fastueux visuellement, donc ça a de la gueule, c'est beau, ça se regarde. Voilà, c'est joli à regarder, vous pouvez couper le son, c'est joli, voilà, les images qui défilent elles sont belles. Donc Les 8 Salopards, on y revient, c'est au moins, moi je pense, une heure trop long. Voilà. Donc il y a d'ailleurs deux rebondissements dans le film. Mais c'est toujours un plaisir de voir des gueules, des trognes, comme celle de Kurt Russell, voilà, de la barbouze, et celle de Samuel L. Jackson, débiter des dialogues et avoir ces plans serrés sur une musique de Morricone avec des passages de la musique composée pour The Thing. Donc c'est un petit plaisir coupable. C'est 10 fois trop long. Après, ça raconte pas grand chose, Les 8 Salopards. Et j'ai envie de dire que ça raconte quelque chose qui a déjà été raconté par Tarantino. Donc, c'est aussi peut-être l'un de ses films les moins évidents, peut-être les plus faibles. C'est toujours mieux que Boulevard de la Mort. De toute façon, en fait, j'ai envie de dire, je pense que même cette espèce de merde qui était sortie en 96, qui s'appelait Four Rooms, je me demande si Four Rooms, c'est pas mieux que Boulevard de la Mort aussi. Alors, osons le dire. Je pense que Peterson, s'il écoute le podcast, sera capable de répondre en disant que oui, Four Rooms, c'est mieux qu'avec sa mauvaise foi, c'est mieux que Boulevard de la Mort. Donc, voilà, Les 8 Salopards, c'est un petit peu la fin d'un cycle entamé avec Inglourious Basterds. Vous pouvez voir ça comme ça. Je pense que Inglourious Basterds, Django Unchained et Les 8 Salopards, c'est un petit peu un espèce de triptyque westernien, si on peut. Oui, on peut dire clairement qu'Inglourious Basterds, ça a la gueule d'un western aussi. Donc voilà, c'est la fin d'un cycle, et on peut se poser la question de si, bah oui, parce qu'il arrête pas de le dire, qu'il va arrêter de faire des films. Donc de se dire que c'est peut-être pas la... Voilà. Est-ce que Tarantino a encore quelque chose à raconter? C'est la question qu'on se pose. C'est aussi la fin d'une association, on n'en a pas parlé. C'est pour ça aussi que j'ai communiqué à la création de ce podcast-là sur Once Upon a Time in Hollywood. Je me suis récupéré un docu sur Quentin Tarantino, édité par ESC Distribution, voilà, qui est Quentin Tarantino en 8 films. Bah oui, ça se passe avant... Voilà, ça a été fait avant de Open Time in Hollywood, et j'étais curieux de le récupérer, non pas parce que j'avais envie d'apprendre des choses sur Tarantino, parce que, autant vous le dire, Tarantino, je le suis depuis 92, je me suis cogné tous les hors-séries de Rocky Rama, tous les bouquins existants, tous les bouquins dans le commerce faits sur Tarantino, écouter toutes les BO, donc Tarantino, en fait, c'est bon, voilà, ça va. Je pense que je connais même la couleur de son caleçon, en gros. Mais il y avait un truc qui me posait un petit peu problème, c'est que donc Tarantino, c'est un réalisateur pop, rock'n'roll, etc. C'est aussi une association avec un producteur qui, aujourd'hui, est en taule, Harvey Weinstein. Parce que Tarantino, on peut dire que c'est lui, plus ou moins, qui a fait le succès de Miramax et de la Weinstein Company. C'est... voilà. Donc, ce documentaire, il aborde un petit peu cette relation... Quentin Tarantino, Harvey Weinstein. Et ce qui est bien dans ce documentaire-là, c'est que vous entendez ces choses-là de la bouche d'un acteur qui s'en bat les couilles, qui est Michael Madsen. J'adore Michael Madsen. Alors Michael Madsen, du coup, c'est le Mr. Blonde de Reservoir Dogs, c'est le frère de Bill dans Kill Bill. Donc, oui, c'est un acteur qui a une gueule d'alcoolique. Ouais, et parce que je pense qu'il doit être alcoolique. Et vous le voyez dans le documentaire, il a la gueule d'alcoolique. Et c'est le mec qui parle un peu comme ça, tu vois. Tu vois, il a une boucle d'oreille, tu sens qu'il fume de la gitane sans filtre, quoi, tu vois. Et le mec, il y va pas par quatre chemins. Donc, c'est bien, parce que dans ce documentaire-là, il éclaire un petit peu ma lanterne. Donc, à la question, parce que ça, faut se la poser, Tarantino est un réalisateur qui met en avant des personnages féminins forts, qui aiment les femmes, c'est un fétichiste des pieds, voilà, des pieds de femmes, donc s'il y a bien une signature dans ses films, c'est bien ça, et même dans le dernier, donc vous voyez tout ça, et même dans Une nuit en enfer, voilà, avec le striptease anthologique de Salma Hayek, donc oui, c'est un réalisateur qui aime les femmes, et qui est, et dont son pote, est un producteur du coup qui agresse les femmes. Donc la question, moi, que je me posais, c'était quel rôle est-ce que Quentin Tarantino était au courant de cet état de fait, et en fait Michael Madsen, à travers les propos qu'il lance, on comprend que c'est une chose qu'il savait. Et j'ai envie de dire avec la bouche qu'il a, Tarantino, parce qu'il est capable de parler sur tel réalisateur, d'affirmer des choses. Alors oui, hein, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des contrats d'exclusivité, etc. On est tenu et lié par ces choses-là. Moi, je pense quand même réellement. Alors, c'est pas pour ternir ou pour casser du sucre sur le dos d'un réalisateur qui est adulé par les gens, mais j'ai envie de dire, ouais, il aurait pu partir de chez Miramax. Donc j'ai envie de vous dire qu'il savait, et alors je dis pas qu'il en a profité, mais l'argent n'a pas d'odeur, et c'est un peu une ombre au tableau de ce réalisateur là alors qu'il, bien entendu, a pris la tangente quand l'affaire a été rendue publique, c'est à dire oh, j'étais pas au courant, c'est bizarre, c'était mon pote, etc. Au même titre que Kevin Smith, hein, c'est pareil, hein, Kevin Smith s'est barré à ce moment là donc j'ai l'impression que il n'y avait pas trop de couronnes au niveau de ces réalisateurs-là à l'époque pour prendre parti et aller faire ses films ailleurs. Donc voilà. Donc le documentaire édité par ESC Distribution, je vous le conseille parce que il éclaire certains côtés de sa filmo. De toute façon, il ne parle pas dedans, ce sont ses acteurs, certains des acteurs qui parlent pour lui. Et chaque intervention de Michael Madsen est intéressante. Donc voilà, je tenais à le dire, même Tim Ross aussi, qui est un acteur qui le suit depuis Reservoir Dogs. Donc j'ai envie de vous le conseiller, c'est pas en Blu-ray, c'est en DVD, mais la compression est agréable, ça reste du docu, donc ça passe très bien sur vos écrans LCD, 4K, même si c'est du DVD, donc je vous le conseille, il se trouve dans toutes les bonnes crèmeries à un prix attractif. Moi j'ai récupéré ça, si vous voulez tout savoir, pendant mes vacances dans une Fnac à l'ancienne, voilà, en allant débusquer l'objet directement. Donc voilà, je pense que on n'est pas loin des 50 minutes, c'est pas mal, hein, pour traiter ce réalisateur-là. Voilà, je me suis permis dans la vérif. Voilà, c'était un passage obligé de parler de Tarantino. Donc Tarantino, bien entendu que je l'apprécie, bien entendu que j'aime ses films, mais voilà, j'ai envie de lui dire, mec, tu te regardes un peu trop tourner depuis un certain temps. Et puis la question était, est-ce qu'il avait encore quelque chose à dire en 2019 quand il sort Once Upon a Time in Hollywood? Et putain de merde, la réponse est oui, et la réponse est tout de suite. Donc voilà, une petite transition qui permettait de passer sur un titre de la BO de ce fabuleux film qui est Once Upon a Time in Hollywood. Alors, Once Upon a Time in Hollywood, déjà, c'est un film qui n'est pas estampillé Miramax. C'est un film qui est récupéré par Sony, ben, tu m'étonnes. Avec l'affaire Weinstein, les studios, ils étaient sur les rangs pour dire qui va récupérer la poule aux œufs d'or, qui va récupérer le prochain Tarantino, parce que Tarantino, c'est un gage de qualité. Hein. C'est comme si, aujourd'hui, vous récupérez dans votre studio un Martin Scorsese ou un Steven Spielberg, hein, donc c'est pas n'importe qui. Donc des ponts d'or, on lui en a fait, hein. Et j'ai envie de vous dire que si Tarantino avait voulu faire un film sur une marmotte, Les mecs, ils auraient payé à coût de 200 millions de dollars pour que Tarantino filme une marmotte en plan séquence pendant 2 heures, c'est pour te donner le niveau. Parce que Tarantino, c'est génial. On comprend pas tout ce qu'il fait, on comprend pas cette nostalgie, mais putain de merde, les gens vont voir ces films en salle, et c'est cool d'avoir du Tarantino. Il a des palmes d'or et des Oscars, voilà, les acteurs se battent pour être dans son film. Donc voilà cet état de fait. À la montée qui constitue le projet Once Upon a Time in Hollywood. Donc déjà, rien que dans le titre, on sent l'hommage à ce putain de Sergio Leone. Donc Once Upon a Time in the West, et Once Upon a Time in America, et ainsi de suite. Donc voilà, Once Upon a Time in Hollywood, dès le départ, ce qu'on en sait du pitch, c'est que c'est un film qui va se dérouler dans une époque, alors c'est un film sur Hollywood, mais pas que, mais qui se déroule à une certaine époque, qui se déroule sur 3 jours, du coup en 1969, pendant la série de meurtres réalisés par Charles Manson. Voilà. Donc on sait que ça va se dérouler pendant cette période-là. On sait que ça parle de Manson, mais le sujet n'est pas Charles Manson. Donc voilà, dites-vous bien que c'est assez nébuleux quand même. On se dit, mais putain, pourquoi il choisit cette période-là ? Pourquoi il traite de Manson sans vouloir traiter de Manson ? Donc beaucoup de questionnements. Et c'est là aussi que se constitue le casting. Un casting, mais allez, on n'est pas 4 étoiles, 5 étoiles, on est 10 étoiles. Donc dans les premiers rôles, on a une triplette. Incroyable, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et l'étoile naissante féminine Margot Robbie. Ça c'est affiché. Viennent se rajouter à ce casting-là, vous avez ni plus ni moins que Al Pacino, voilà, Kurt Russell, et vous avez même, voilà, c'est pour ça que ça arrive pas en premier pour certaines personnes, mais moi je vais le citer, et malheureusement le dernier rôle au cinéma de Luke Perry, voilà, donc c'est son rôle posthume parce que l'acteur de Beverly Hills et du film Buffy contre les vampires mourra juste après le tournage de Once Upon a Time in Hollywood. Donc c'est son dernier rôle, donc rien que pour ça vous devez avoir le film dedans. Vous avez aussi du Timothy Olyphant et j'en oublie sûrement, voilà, il y a du Bruce Dern, donc voilà, il y a les habitués, des nouveaux venus, etc. Donc c'est un casting 10 étoiles pour une histoire pas forcément attendue et très touchante. Donc Once Upon a Time in Hollywood, c'est aussi un budget assez cossu. Ça fait maintenant quelques films où à chaque fois on avoisine les 100 patates, donc les 100 millions de dollars. Donc là on est légèrement au-dessus de 100 millions de dollars et budget nécessaire parce qu'on reconstruit, parce que là la reconstitution pour ceux qui ont vu Once Upon a Time in Hollywood, j'espère que vous l'avez vu quand même, c'est fastueux et méticuleux dans la reconstruction d'un Hollywood qui n'existe plus. Voilà, donc il y a une volonté de reconstruire à la fois le Hollywood de la fin des années 60, à la fois la fin des années 60 américaines et aussi cette volonté de reconstruire certains studios de cinéma, en même temps que c'est une mise en abîme, parce que on a un réalisateur qui nous parle des à côté, des coulisses de comment on fabrique un film. Voilà. Donc il y a un sacré budget, il y a un sacré casting et une sacrée putain de durée, parce qu'on n'est pas loin des 3 heures. Alors j'ai envie de vous dire, ce film-là, moi j'avais très peur dès le départ qu'il se regarde filmer à nouveau. Et c'est un peu le cas parfois, mais c'est sauvé par le jeu d'acteur et par cette espèce d'état de grâce, parce que Tarantino arrive à obtenir un état de grâce quasiment naïf. Parce que oui, il arrive à nous embarquer dans cette nostalgie qui ne nous appartient pas. Moi, personnellement, j'ai une nostalgie par rapport à la période Amblin des années 80, parce que je l'ai connue, voilà, de ces films-là, mais j'ai pas de nostalgie sur la fin des années 60. Voilà, c'est pas le cinéma qui me parle. Mais il arrive à me vendre, et c'est ça qui est important aussi, c'est une véritable putain de carte postale visuelle, il arrive à me vendre ce Hollywood-là, qui fait que quand tu regardes le film, tu te dis, putain, ouais, voilà, tu regardes Madame, tu dis, voilà, le prochain voyage qu'on fait, c'est à Los Angeles, bordel de merde. Je veux aller bouffer dans ce restaurant-là, je veux aller dans ce motel-là, je veux aller à cet endroit-là, je veux aller voir ça. Voilà, c'est une vraie putain de carte postale. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de m'adresser à Donald Trump, mec, t'as pas besoin de payer une vidéo promo pour faire venir les touristes aux États-Unis. Rien qu'avec Once Upon a Time in Hollywood, on t'a vendu ton pays, là. On t'a vendu vraiment l'industrie du rêve américaine. C'est aussi Alors attention, c'est ça qu'il faut le prendre aussi avec des pincettes. C'est aussi un film nostalgique pour te vendre quelque chose qui n'existe plus aussi. Donc c'est-à-dire que c'est un constat doux amer aussi sur une période qu'on regrette dans Hollywood, d'un mode de fabrication de films qui n'existe plus. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça aussi la performance de ce film-là. Parce que moi, je vous le dis, j'ai regardé ça avec madame. Madame, elle en a rien à foutre, techniquement, de Tarantino. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, aujourd'hui, consomment du film. On peut en parler, hein, du film sur Netflix, sur les plateformes de streaming. Beaucoup de gens qui consomment du film comme ça et qui vous diront que Once Upon a Time in Hollywood, c'est long et que ça raconte rien. On ne peut pas leur donner tort. Mais moi, j'ai envie de dire, ça raconte rien, mais en même temps, ça raconte tout. Voilà, parce que voilà, moi j'aime bien être de contre-pied, contredire à ce niveau-là. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'époque, par la grande époque des studios, qui ne sont pas intéressés par cette époque-là sur Charles Manson, qui ne sont pas intéressés par le western, parce que ouais, c'est quand même pas vendeur à l'époque, voilà, qui n'ont pas cette nostalgie-là. Ouais, pour eux, on s'en branle, quoi. Voilà, pour eux, on s'en fout, quoi. Et pour moi, par contre, c'est là le grand tour de force de ce film-là. C'est que, à la fois, c'est bavard, et à la fois, ça l'est pas. C'est-à-dire que on reconnaît le style Tarantino, et parfois, il laisse juste sa caméra traîner dans les décors, il la laisse évoluer, et on a des scènes qui tiennent du miracle, par moment, à ce niveau-là. Bon, déjà... Once Upon a Time in Hollywood, c'est son film le mieux réalisé. Voilà. On a des plans amples, des travelling pensés, des casse-têtes en termes visuels. On a ce recours au travelling aérien fait avec de la Luma ou avec du chariot de travelling ou du rail de travelling ou de la grue comme on le faisait à l'ancienne. Donc il y a une volonté de cinéma. Il y a une envie de cinéma qui transpire chaque plan. C'est un film qui est tourné en 35 mm pellicule. Voilà. Donc en 2019, voilà, il n'y a que des mecs comme Tarantino ou Nolan qui peuvent se permettre de tourner en péloche. Donc c'est tourné en péloche du début à la fin. C'est quand même un film sur les à côté, sur les coulisses. Donc on a aussi un film sur la télévision américaine de l'époque. Et comme les personnages principaux, que sont Rick Dalton et Cliff Booth, incarnés respectivement par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, n'existent pas. Voilà. Donc il invente deux personnages et il les mélange, du coup, c'est pour ça qu'on est encore dans l'Uchronie, à ce Hollywood des studios de l'époque. Tout le matériel promotionnel, tous les films dans lesquels ils apparaissent, il y a un travail gigantesque de création. Il n'hésite pas, Tarantino n'hésite pas à tourner toutes les bandes-annonces des séries policières ou des films dans lesquels tourne Rick Dalton. Il n'hésite pas à tourner ça du coup en Super 16 pour recréer le cachet de l'époque, en fait. Donc il y a une volonté jusqu'au boutiste, donc ça a l'air de rien. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à la conception d'un film ou à l'image en elle-même, il y a un travail de titan. Et rien que pour ça, putain de merde, Once Upon a Time in Hollywood, ça méritait une bardée d'Oscar. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Donc c'est un film jusqu'au boutiste. C'est son meilleur travail en termes visuels. Pour moi, c'est la quintessence de son cinéma. Pourtant, j'adore ça, vous l'avez compris, hein, j'adore sa période de départ. Donc, c'est-à-dire le diptyque Reservoir Dogs, Pulp Fiction, et on pourrait rajouter Nuit en Enfer à l'intérieur qui n'est pas un de ses films, mais pour moi il a assimilé un de ses films. J'adore cette partie-là. Once Upon a Time in Hollywood, ça résume un peu tout, et c'est la quintessence. Moi j'ai envie de vous dire, ça pourrait être son dernier film. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est capable de raconter derrière. Donc là, il vient de raconter Hollywood. Donc Once Upon a Time in Hollywood, qu'est-ce que ça raconte? Donc, on l'a dit, hein, ça se déroule pendant trois jours spécifiques de l'année 1969 aux États-Unis, dans les studios hollywoodiens de Los Angeles. Ça raconte, en fait, une amitié. Une amitié entre, j'ai envie de vous dire, deux losers, parce que c'est un peu ça aussi, le cinéma de Tarantino. C'est aussi c'est aussi de mettre en avant des losers, voilà, de beaux losers en fait, hein, des gueules cassées. Donc c'est d'un côté l'acteur de télévision Rick Dalton, incarné par Leonardo DiCaprio, et de l'autre côté son cascadeur, sa doublure, qui est Cliff Booth, et c'est aussi son chauffeur à ses heures perdues, parce qu'il faut bien mettre un peu d'argent dans la gamelle, voilà. C'est aussi qui est incarné par Brad Pitt. Donc voilà, on a ce tandem et putain, il y a deux prestations de fou furieux en termes de jeu d'acteur, c'est fou. Voilà. DiCaprio, il a un autre niveau. Alors DiCaprio, c'est vrai que des gens de ma génération, on pouvait le prendre en grippe parce que c'est un mec, c'était un acteur à midinette, et on a eu tendance à le cataloguer comme ça, et toute sa carrière il a essayé de contredire un petit peu cette tendance en tournant notamment chez Scorsese, et c'est vrai que moi je me suis refait il y a pas longtemps le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, on va bien le prononcer, de nom à coucher dehors aussi, je me suis refait ce Roméo et Juliette bien après du coup toute cette DiCaprio mania des gonzesses de l'époque, et ouais, c'était déjà un acteur fou, ouais, c'était déjà un acteur qui imprimait la péloche, et là il est arrivé à maturité, là il est arrivé à maturation. Donc toute la difficulté du personnage de Rick Dalton, c'est que DiCaprio doit jouer, c'est aussi une mise en abîme, un acteur, voilà, qui est en perte de vitesse. Donc vous avez un acteur qui joue un acteur qui est en perte de vitesse, voilà. Et il doit l'inscrire en fait dans une réalité où il n'est pas apparu en fait. Donc voilà toute la complexité du rôle. Et DiCaprio doit livrer par moment dans le film une performance d'acteur, de l'acteur qui livre une performance. Vous voyez, donc c'est une performance de DiCaprio qui est complètement dingue. Voilà. Donc déjà sa gueule, elle marque les esprits. Et putain, le tandem fonctionne bien avec Brad Pitt. Alors Brad Pitt, il a aujourd'hui ce côté à la George Clooney, c'est-à-dire il suffit juste qu'il soit là et ça suffit. Donc Brad Pitt, il a un charisme de tous les instants. Il défonce tout. Bon, déjà, on le savait déjà grâce au triptyque suivant, qui est Seven, l'armée des 12 singes et Fight Club. Donc déjà à cette époque-là, tu sais que Brad Pitt, c'est un acteur gigantesque et qu'il est charismatique et qu'il a une gueule et qu'il sait aussi être dans le registre de l'autodérision, mais très nuancé. Donc déjà, formidable travail là-dessus. Et c'est pas un nouveau venu chez Tarantino, parce que c'était aussi le chef des Bastards. Dans Inglourious Basterds, il était déjà très bon là-dedans. Il était bon, c'est même la raison principale pour laquelle il faut regarder Inglourious Basterds. Donc là, dans le rôle de Cliff Booth, il est magique. Et je suis très content qu'il ait eu un Oscar du meilleur second rôle pour cette interprétation de Cliff Booth. Il est génial. Donc, on a, pour revenir à l'histoire qui nous est racontée dans Once Upon a Time in Hollywood, donc on a ces deux gueules cassées. Donc cette amitié, hein, j'ai envie de dire cette bromance quasiment, parce qu'on en est là. On a ces deux acolytes qui sont à un tournant de leur vie et de leur amitié. Donc c'est-à-dire que Rick Dalton, c'est un acteur de série télé qui est sur le déclin et qui a pas su prendre le virage cinématographique. Et il se voit proposer en fait de tourner dans des films italiens. Donc c'est intéressant cette période là parce qu'il y a une volonté de Tarantino aussi de parler de toute cette vague de films italiens qu'il adore, hein. Signé Fulci, signé Margaretti, tous ces noms là que nous on connaît. Et ce qui est génial et que j'apprécie pour ceux qui connaissent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui ont dû kiffer ça, c'est-à-dire qu'il a réussi à créer des films qui n'existent pas, de Margaretti et de Fulci, avec des affiches où il y a Rick Dalton à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est génial. Donc voilà, donc il parle de cette période-là où certains acteurs franchissaient l'Atlantique pour aller tourner en Italie. Et ça parle aussi, finalement, c'est ce qu'a fait Clint Eastwood. Je pense que certains le savent aussi. Voilà, qu'elle était dans la série Rawhide, voilà, qui est une série de western, comme Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood. Il s'est vu proposer, parce qu'un autre acteur n'avait pas pu le faire, un rôle dans un film obscur qui était pour une poignée de dollars. Voilà, de Sergio Leone. Et c'est ce qui fera sa carrière. Et c'est ce qui est montré dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc Tarantino rend hommage à ça. Il parle de ça aussi. Voilà. Il parle aussi de cette période-là. Donc on a ce changement dans donc on a ce destin en fait de Rick Dalton et le destin de Cliff Booth est entièrement lié à Rick Dalton parce que Cliff Booth c'est sa doublure cascade mais il y a un vieux passif. On sait que c'est un cascadeur qui est prodigieux, mais qui est persona non grata sur les tournages, parce qu'il y aurait une vieille légende comme quoi il aurait assassiné sa femme. Ça sera jamais clairement dit dans le film. Et c'est bien qu'on laisse le suspense là-dessus. Donc voilà, donc la destinée de Cliff Booth est entièrement liée à celle de Rick Dalton. Et à côté de ça, vous avez vous avez Margot Robbie qui va incarner du coup ben, la fameuse et la fameuse actrice Sharon Tate qui est une qui a eu un destin tragique, qui était l'épouse de Roman Polanski et qui a été le fait de l'époque, qui a été assassinée par la secte de Manson alors qu'elle attendait l'enfant de Roman Polanski. Donc voilà, donc c'est un fait divers assez glauque et je trouve que Tarantino ne s'épanche pas là-dessus, bah forcément parce qu'il choisit une autre voie, celle de l'Uchronie. On y reviendra tout à l'heure par rapport à ce dernier acte de Once Upon a Time in Hollywood. Donc on a le destin de nos deux comparses plus celui de Margot Robbie qui évolue. Donc on a vraiment deux tendances. On a quand on suit Rick Dalton et du coup Cliff Booth, on a le côté Tarantino, hommage, western, et du coup film d'exploitation américain et transalpin de l'époque. Et le côté Margot Robbie, et ben Margot Robbie au final, elle incarne toute la naïveté de cet Hollywood de l'époque en fait. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'il a choisi cette période-là de 1969, parce qu'on peut dire que oui, c'est la fin d'une époque et que la secte Manson, en fait, c'est un petit peu ce qui détruit Hollywood. Il le voit comme potentiellement ce qui est un tournant. Voilà. Donc, et que Sharon Tate, en fait, elle incarne cet Hollywood de l'époque et qui a été complètement anéanti. Voilà. L'actrice Margot Robbie, elle est parfaite. Voilà. Donc, elle est magnifiquement mise en image. Et on a cette scène que moi je trouve fabuleuse de Margot Robbie jouant Sharon Tate qui va dans un cinéma. Regarder son propre film et Tarantino réussit à nous recréer une sorte de champ contre champ entre l'actrice qui joue Sharon Tate en train de regarder Sharon Tate elle-même et ce champ contre champ qui est fait va appeler aussi nous en tant que spectateurs on nous implique là-dedans et c'est une mise en abîme qui est très touchante et qui est assez déstabilisante, mais déstabilisante calmement en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une séquence bien amenée et qui retranscrit en fait tout l'amour que Tarantino voue du coup à cette époque-là. On aurait tort de croire que Tarantino voue un culte à Sharon Tate. C'est pas ça. Il aime cette actrice, mais il aime ce qu'elle incarne en fait, c'est-à-dire une certaine candeur du cinéma de la grande époque des studios hollywoodiens. Voilà. Donc, Once Upon a Time in Hollywood, pour tout ça, c'est fastueux. C'est une reconstitution et c'est un régal de tous les instants pour chaque connaisseur en fait de cette époque-là. C'est clairement un film de cinéphile et c'est vraiment, oui, un régal de voir chaque petit détail agencé, que ce soit au niveau de la création des affiches de ces films fictifs et de la manière dont c'est amené visuellement. Donc c'est un vrai régal. J'ai envie de vous dire, le film va basculer progressivement vers son dernier acte où intervient du coup une voix off et une sorte de minutage parce que forcément pour qui connaît cette époque là parce que quand on voit, enfin quand par exemple quand on ne sait pas que Tarantino va se tourner vers l'Uchronie, on se dit oui, on a cette espèce d'attente de se dire le clan Manson est amené par petites touches du coup dans le film, on se dit comment ça va se terminer, que va faire Tarantino, est-ce qu'il va respecter du coup, est-ce qu'il va partir vraiment dans le fait historique ou est-ce qu'il va carrément dévier de sa course comme il l'a fait dans Inglourious Basterds. Et effectivement, il dévie de sa course et il réécrit l'histoire. Et c'est pour ça que le dernier acte, moi je le trouve important et symbolique de l'offrande que nous fait Quentin Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood en 2019, c'est qu'il revient à ses premiers amours et qu'il redevient le chien fou et le réalisateur iconoclaste qu'on avait connu dans les années 90. Donc je vais un petit peu développer le propos là-dessus. Donc ce troisième acte est amené par une voix off avec un minutage où on reconstitue les faits et petit à petit, du coup, le récit commence à s'éloigner de la réalité et commence à utiliser les personnages de Rick Dalton et Cliff Booth pour les mettre dans la boucle de cette confrontation avec la famille Manson. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de ne pas écouter la suite, parce que là, on est clairement dans le spoiler. Pour les autres, j'ai un peu plus développé, moi, ce qui m'a fait éructer. Voilà, terme compliqué de ce podcast, éructer, et voilà, lors de son visionnement en salle. Donc, c'est vraiment l'assaut de la famille Manson sur, du coup, sur la maison de Rick Dalton. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est pour ça qu'aussi Inglourious Basterds est intéressant aussi, c'est que Tarantino, à travers son cinéma, et c'est ça aussi qui est assez naïf de sa part, c'est qu'il utilise le cinéma pour réparer des injustices historiques. Donc voilà. C'est pour ça que Hitler et les nazis se font défoncer par le cinéma littéralement. Voilà, parce qu'ils se font exploser dans un cinéma grâce à des bobines. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans Once Upon a Time in Hollywood et qui est latent hein, au fur et à mesure du récit, mais qui explose vraiment à la fin, c'est que ouais, Tarantino à cette époque-là, il voit les hippies de Manson comme une saloperie en fait. Et ce sont ces personnages de fiction qui vont sauver le cinéma. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans le final de Once Upon a Time in Hollywood. C'est que Tarantino utilise son cinéma pour te dire, putain de merde, j'emmerde les hippies, j'emmerde les satanistes, j'emmerde tout le culte qu'on voue autour de ces putains de serial killers, parce que c'est des vraies saloperies. Il a un propos naïf, en fait, à la fin, mais et j'ai envie de dire, ouais, moi, il me rallie à sa cause à ce moment-là. Ouais, il est à rebrousse-poil, en fait, de ce que peut faire, par exemple, David Fincher avec la série Mindhunter, pas idéalisé, c'est pas ça, c'est en mettant en exergue, en livrant une sorte, je vais arriver à le sortir, en livrant une sorte de fascination autour du mythe du serial killer. Tarantino, il en est pas du tout là. Il n'y a rien de mythique pour lui dans le serial killer. Serial killer, c'est juste un espèce de taré qui tue des gens. Et ce taré-là, et ben dans son cinéma, il se fait défoncer la gueule. C'est un peu ce qui se passait aussi. On va essayer de réhabiliter vite fait le final de Boulevard de la Mort. C'est ce qui arrive à Kurt Russell, du coup, à la fin de Boulevard de la Mort. Ouais, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, iconisé. Donc s'il avait réussi à iconiser ce putain de Kurt Russell, ce putain de bourreau là avec sa bagnole, il se fait défoncer la gueule à la fin de Boulevard de la Mort. Et ben c'est un peu ce qui se passe du coup dans Once Upon a Time in Hollywood, et c'est pour ça que j'étais en joie dans ce cinéma. J'étais là en train de dire oui, il choisit une voie qui est clairement une voie frondeuse, voilà, frondeuse, c'est-à-dire clairement une voie de outlaw, de dire voilà, j'emmerde, voilà, vous êtes venu voir un de mes films, voilà, vous me considérez, donc vous me suivez jusqu'au bout, mais voilà, moi je suis en train de vous dire que j'emmerde ces saloperies de hippies, et c'est dit, et c'est pour ça que c'est génial dans ce film-là, parce que c'est répété au moins une dizaine de fois dans la bouche de Rick Dalton et de Cliff Booth, ces salopards de hippies. Donc, donc dans ce final, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le fait historique de la tuerie orchestrée par la secte de Manson, au lieu de débarquer dans la maison de Sharon Tate et de tuer Sharon Tate et ses invités, il débarque dans l'autre maison, celle de Rick Dalton. Et dans la maison de Rick Dalton, on a un Rick Dalton complètement bourré dans sa piscine et un Cliff Booth complètement défoncé. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a une confrontation, il y a un moment de latence, et tu sens venir la scène. Voilà, tu sens à ce moment-là que tu vas te retrouver de nouveau dans Pulp Fiction, de nouveau dans Reservoir Dogs, tu sens. Voilà, il y a un tournant à ce moment-là. Et là, tout le personnage de Cliff Booth explose, parce que Cliff Booth, en fait, c'est les jambes. Et Rick Dalton, c'est la tête, en fait, voilà. Et on est littéralement dans le buddy movie d'action, voilà. Et là, et ben le personnage de Brad Pitt, il éclate littéralement, voilà, et visuellement, la gueule de ces serial killers en herbe. Il leur éclate la gueule. Et là, t'as une scène voilà, de pur exploitation movie, mais en mode horrifique. Il leur pète la gueule. Et t'es littéralement, en fait, dans un hommage Hard Boil à la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Voilà. T'es limite dans un Rape and Revenge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, le clébard, parce que oui, on va pas parler, mais il y a une relation aussi entre Cliff et son chien. Donc t'as bien compris que le chien est dressé au poil. Bon, alors là, c'est une arme de destruction massive. Donc le Cliff et le chien, eh ben, ils défoncent la moitié du casting, qui la moitié de la secte Manson. Et là, il y a un putain de fusil de Chekhov que t'avais pas vu venir, voilà, qui est utilisé à la fin, et c'est génial. C'est-à-dire que tout au long du film, c'est-à-dire qu'on nous montre des extraits de films de Rick Dalton, et t'as un film de nazisploitation, voilà, où tu le vois en fait dans un extrait cramé du nazi à coups de lance-flammes. Et là, en fait, donc t'as Rick Dalton dans une scène complètement dingue, qui, ben, il te le dit dans le film, qu'il garde tous ses accessoires. Il va chercher, parce qu'il a gardé du coup le lance-flamme du film, et il te crame un des assaillants directement dans la piscine, en mode bourrin, quoi. Et voilà, quoi. Et voilà. Et donc tu tapes 10 minutes d'exécution sommaire en bonne et due forme, dans la joie et la bonne humeur, du clan Manson. Et voilà. Donc voilà et c'est pas pour rien si il utilise, il y a un lien. Voilà. Donc c'est pour ça que Cliff Dalton, que Rick Dalton utilise ce lance-flamme là. Ça fait écho à Inglourious Basterds aussi. Voilà. Donc il y a un lien un petit peu entre les deux films. Donc clairement, Tarantino te réécrit l'histoire et te dit bien que ouais, ils font chier ces putains de connards de serial killer d'avoir tué Sharon Tate, d'avoir tué ce cinéma-là. Et grâce à ces personnages et à son cinéma, ben, le temps d'un film, c'est pour ça que ça s'appelle aussi Once Upon a Time in Hollywood, le temps d'un film, eh ben, il te dit « et si ?» Voilà. « Et si ?» Il s'était passé ça. Et c'est ça toute la force et toute la beauté de ce dernier film de Quentin Tarantino. Et c'est pour ça que c'est un film indispensable, et c'est pour ça aussi que ça rentrera dans le Panthéon. Et j'ai envie de vous dire que cette séance de cinéma aussi, elle a fait écho, parce que j'avais été le voir bien après la tempête, genre, il y a le dernier Tarantino, faut vite aller en salle. Moi, je voulais y aller tranquillement, j'y avais été un après-midi. Et cette séance ciné, elle m'a rappelé fortement la séance du Nuit en Enfer à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas nombreux dans la salle, et qu'il y avait ces fameux bobos fans de Tarantino. Et dans cette scène finale, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ça a été « Chérie, prends ta veste, on s'en va ». Eh ben ouais. Et à ce moment-là, j'étais mort de rire et j'ai dit « Ben ouais ». Parce qu'à la base, les amis, c'est ça Tarantino aussi. Voilà, c'est de l'irrévérence, c'est de l'insolence. Et à 50 ans bien tapé, je suis content qu'il revienne aussi à ses premiers amours. Donc, ben voilà, on a bouclé cette vérif-là, du coup, dédiée à Once Upon a Time in Hollywood. On pourrait dire beaucoup de choses, hein. Mais l'idée, c'est pas de s'épancher non plus pendant 3 heures. Hein, c'est pas non plus le baigneur du podcast. Je peux parler par contre de l'édition Blu-ray. C'est sorti chez Sony Pictures. Alors c'est vendu comme avec plus d'une heure de bonus. Autant vous le dire de suite, c'est de la merde. Voilà, j'ai regardé alors le master, le transfert, etc. C'est de toute beauté. Bon, les bonus chez Sony Pictures, alors c'est vraiment de la merde. Hein. Donc, oui, c'est plein de petits modules en mode branlette. Et super. Alors, c'est très bien. Moi, j'aime bien les modules hein, sur les costumes, tout ça. Au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Donc, non. Très peu d'interventions de Tarantino. Beaucoup d'interventions sur les costumes, sur la constitution. Et rien, en fait, sur ce qui aurait pu être le nerf de la guerre. C'est-à-dire le personnage de Cliff Booth, la famille Manson, sur la volonté aussi ukrainienne de réécrire, donc rien que dalle. J'oublie aussi, parce que ça il faut le dire quand même, il se permet même des à côté dans Once Upon a Time in Hollywood, notamment sur le personnage de Bruce Lee avec cette scène hilarante de combat fantasmé entre Cliff Booth et Bruce Lee, et Bruce Lee qui atterrit complètement défoncé sur une caisse, donc ça aussi c'était génial. Donc ben voilà, Once Upon a Time in Hollywood, j'imagine que vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, eh ben prenez 3 heures de votre vie et regardez-le parce que c'est génial. C'est du grand Tarantino. Pour la suite de ces podcasts, quelle est la suite? Eh ben, j'ai envie de vous dire que la prochaine vérif, ça sera du Planète Terreur. Ouais, parce que j'ai envie de me frotter aussi à Rodriguez, parce que j'aime beaucoup Rodriguez. Il y a beaucoup de merde, mais beaucoup de joyaux aussi dans sa filmographie. Et le prochain épisode long, eh ben, ça sera dédié au ninja de la canon avec la saga American Ninja, donc ça c'est pour dans quelques semaines. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute. C'était le 9e épisode de la vérif de 7ème dimension, et à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute.
Donnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.